les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez, laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer. Avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver. Avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.
Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance, poil à gratter. Nous sommes le 18 mars 2026. C'est la 168e émission. Nous sommes le troisième mercredi du mois. Et l'émission en mars, c'est la semaine des femmes sur Radio Libertaire. Enfin, c'est la semaine des femmes tout le temps, mais bon, particulièrement en ce moment. Et l'émission s'appelle « Elle » au pluriel. Et nous aurons un disque. Enfin, aujourd'hui, je vais tout faire sur ordinateur. J'espère que je ne vais pas me planter. Ça sera Ariane Mestre. Ariane Mestre, que nous avons rencontrée à Publico et qui a fait un disque pour enfants. Et donc, ça sera ce disque pour enfants, mais sur ordinateur. Les lectures, une bande dessinée de chez Biscotto, La petite chienne et la louve de Marine Blandin, ça est paru en 2022. Ensuite, un album illustré, Comment fonctionne une maîtresse? C'est chez Rue du Monde, l'autrice Susanna Mattiangeli et l'illustratrice Chiara Carrère. C'est paru en 2013. Puis, sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard. Là, c'est pour les un petit peu plus grands. C'est aux éditions La Ville Brûle. L'autrice, c'est Iris Bray et l'illustratrice, c'est Myrion Mal, une illustratrice favorite de cette maison d'édition, La Ville Brûle. Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard. Ensuite, un extrait d'un livre qui s'appelle Les Infréquentables. Les Infréquentables, 40 histoires de femmes sans foi ni loi. Là, c'est pour... ça peut être pour les je sais pas, à partir de 10 ans. C'est aux éditions First et Cosette. C'est... Alors, j'ai oublié de marquer l'année. Non, c'est en 2020, pardon. Et nous allons choisir Alice Guy, première au générique, une grande pionnière du cinéma. Puis, si j'ai le temps, on parlera de comment on a masculinisé la langue française et oublié les autrices. C'est chez les Arènes Jeunesse et c'est par une célèbre autrice féministe, Tissiou Lecoq. Les femmes aussi ont fait l'histoire. Donc on verra si on a le temps. Si on n'a pas le temps, ça sera pour l'émission suivante. Les Infréquentables sans foi ni loi, ça sera La Brigande de Cornouailles, Marion Dufaouette, par Anne-Laure Pinault, illustration Camille Besse, c'est dans Les Maudites, 40 histoires de femmes sans foi ni loi, Les Infréquentables. Voilà, je crois qu'il y aura largement de quoi remplir le programme. Et nous sommes donc le 18 mars 2026 sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Nous écoutons des cailloux dans l'engrenage. Et... Pour les habitués de l'émission, ils reconnaissent peut-être les cris des petits loups du jazz. Pour introduire l'histoire, La petite chienne et la louve de Marine Blandin. Alors, c'est une bande dessinée, donc ça ne se raconte pas, mais comme c'est vraiment une bande dessinée... sympa pour les plus jeunes, accessible aux plus jeunes, qu'on peut trouver au Salon du Livre quand on y va, au Salon du Livre pour la jeunesse, c'est là que je l'ai trouvé. La petite chienne ou la louve chez Biscotto. Nana est une petite chienne, une toute petite chienne que son maître terrorise. Un jour, il l'enferme une fois de plus à la cave pour la punir. Une étrange voix appelle Nana. C'est l'esprit de la louve qui l'invite à s'échapper sur le chemin périlleux de la liberté. Voilà pourquoi nous aimons bien dans cette émission les éditions Biscotto, qui sont quand même spécialisées dans la bande dessinée. Alors là, je vais vous lire les premières... paroles des cases, mais bon, je ne vous lirai pas tout le livre, ça sera juste une introduction. On est dans un appartement et on voit une flaque jaune. Oh non, Nana a encore fait pipi. Nana, et on voit une main, un poing qui casse la figure a une toute petite chienne et qui la jette dehors. Et c'est Nana, en fait, qui est jetée dehors par le propriétaire, le maître de la maison, qui est jetée à la cave, exactement. Et c'est là qu'elle rencontre le loup, enfin une louve, c'est une peinture, elle a peur, c'est une peinture qui parle. Voilà l'introduction de l'histoire. Et la peinture, c'est une louve qui lui dit « Je ne peux plus me taire, petite sœur. Te voir te faire battre jour après jour m'est insupportable. Nana, tu n'as pas à accepter que l'on te traite ainsi. Tu dois te rebeller. » Me rebeller ? Oui, tu dois partir. Partir ? Oui, rejoins la forêt. Là, tu retrouveras ta liberté et tu reprendras ta vie de louve. De louve ? Mais enfin, vous vous trompez, Nana n'est pas une louve. Non, mais je te promets que tu en deviendras une. Et on voit là la louve qui sort de son image. Et la petite louve qui a très très peur, mais elle entend « Je suis avec toi, petite sœur, je te guiderai. » Et je m'arrête là, c'est pour vous dire que si vous voulez une belle petite histoire qui insuffle la liberté chez les animaux, mais ça correspond aussi aux humains, n'est-ce pas, évidemment. C'est cette bande dessinée qui date de 2022, mais qu'on peut encore trouver et commander dans une librairie pour jeunesse ou dans une librairie de bande dessinée, La petite chienne et la louve. Je m'arrête là parce que c'est quand même trop compliqué de raconter une bande dessinée à la radio, mais je vous la recommande pour les plus jeunes.
Ici, vous êtes ici, vous êtes mon petit et ma petite, bienvenue pour la visite.
C'est pas le lac Titicaca, pas le sommet du Kamchatka, c'est pas l'île de Madagascar, pas le détroit de Gibraltar.
Ici, vous êtes ici, vous êtes mon petit et ma petite, bienvenue pour la visite.
C'est pas les steppes de Mongolie, pas les rizières d'Indonésie, c'est pas la plage d'Honolulu, pas l'archipel des Tuamotu.
Ici, vous êtes ici, vous êtes mon petit et ma petite, bienvenue pour la visite.
C'est pas le golfe du Mexique, pas la baie de Thessalonique, c'est pas les chutes du Niagara, pas le désert du Sahara.
Ici, vous êtes ici, vous êtes mon petit et ma petite, bienvenue pour la visite.
Automobile, une statue, un square et un chien, un bac à sable, un magasin, des éboueurs et une princesse, un clochard en état d'ivresse.
C'est vous ce qu'il y a, mine de rien.
Si tu regardes, regarde bien. Si tu regardes, regarde bien.
C'est le premier titre éponyme du disque d'Ariane Mestre qui s'appelle « Ici » et c'est paru en 2025. Maintenant, je vais vous lire « Comment fonctionne une maîtresse ?» sur Radio Libertaire, dans des cailloux, dans l'engrenage, l'enfance, poil à gratter, une émission intégralement consacrée à des lectures d'albums jeunesse. Alors, l'autrice Susanna Mattiangeli, la illustratrice Chiara Carrère, « Comment fonctionne une maîtresse » est éditée chez Rue du Monde. Ça vaut 16 euros. J'ai oublié de dire tout à l'heure le prix, c'est pas grave. Celui-là, c'est un grand album qui vaut 16 euros. Et voilà la quatrième de couverture. Des maîtresses, il y en a des grandes et des petites, des lisses, des bouclées, des à fleurs et des à carreaux, des souriantes et des en colère. Et à l'intérieur des maîtresses, il y a quoi ? Voici un portrait joyeux et très imaginatif pour savoir tout sur celles et ceux qui font l'école. Enfant d'hier et d'aujourd'hui, chacun reconnaîtra la sienne. Voilà Rue du Monde, paru en 2013, assez ancien. Alors les dessins sont très originaux. C'est pas des dessins, c'est des collages, des peintures. Enfin, c'est oui, on peut dire que c'est très original. La maîtresse a une face avant, celle que l'on voit habituellement, mais aussi une face arrière que l'on découvre quand elle se tourne. Et là, sur l'image, on voit un papier réglé avec deux petits ronds à la place des seins et puis deux petites fesses et un petit rond à la place du pubis. Chez Rue du Monde, on ose être un peu coquin, comme le sont les enfants d'ailleurs. Au-dessus de la maîtresse, il y a le plafond de la classe ou le ciel quand elle est dehors. Sous la maîtresse, il y a le plancher ou bien du gravier et encore la rue. Autour de la maîtresse, il y a les enfants, quelquefois en rang, quelquefois en cercle, debout ou bien assis. Il y a des maîtresses longues et des maîtresses courtes. Des maîtresses larges ou très minces. Une petite maîtresse n'est pas maîtresse à moitié, pas plus qu'une grande maîtresse n'a le double de valeur d'une petite. Les maîtresses peuvent avoir des couleurs très différentes. Elles peuvent être foncées, claires, frisées, lisses, à pois, à fleurs, à carreaux ou de toute autre fantaisie. Sur une maîtresse à lignes, on peut écrire. Sur une maîtresse quadrillée, on peut poser des opérations. Une maîtresse peut porter de nombreux vêtements, ou alors très peu, et en dessous, elle est bien sûr toute nue. La maîtresse peut aussi être un homme, et le maître d'école peut également avoir des formes et des couleurs variées. Lui aussi s'habille et se déshabille. À l'intérieur de la maîtresse, il y a des nombres, des tables de multiplication, des fleuves, des montagnes, l'horloge, les cinq sens, l'homme préhistorique et beaucoup d'autres choses qui petit à petit finissent un jour à l'intérieur des enfants. Les bonjours, la maîtresse fait entrer dans chaque enfant juste ce qu'il faut sans rien perdre en route et sans non plus complètement se vider jusqu'au dernier de ses adjectifs. Là, le collage est vraiment somptueux. Il tient toute la page dans l'autre sens, de haut en bas. Je continue. S'il manque une maîtresse, on fait une soustraction. Si une nouvelle maîtresse arrive, on fait une addition. Le total des maîtres et des maîtresses de la planète devrait être divisé entre tous les enfants du monde. Et s'il n'y a pas assez de maîtresses, il faut les multiplier. Les maîtresses préhistoriques étaient plus poilues que celles d'aujourd'hui. Elles donnaient davantage de devoirs et enseignaient des choses bien différentes. Avec le temps, presque toutes les maîtresses ont perdu leurs poils. Elles se sont transformées et ont peu à peu enseigné dans toutes les langues du monde. En italien, maîtresse se dit maestra, bon, en espagnol aussi. En anglais, teacher, en allemand, lehrerine, je ne fais pas d'allemand, pardon pour la prononciation. En turc, ça va être encore pire, öğretmen. En finnois, opetaja. En hollandais, leraresse. En arabe, on prononce muallim. Et en chinois, laoshi. Entre elles, les maîtresses parlent la langue des maîtresses. C'est comme la langue des grandes personnes, mais encore plus compliquée. Elles parlent aux enfants. en articulant bien les syllabes ou en murmurant, ou encore en hurlant, ou bien d'une voix changeante, presque chantonnante. Quand on les écoute, on a l'impression de voir un dessin. Souvent, les maîtresses s'expliquent aussi avec des gestes, en faisant des signes ou carrément en chantant. Certaines le font en jouant d'un instrument de musique, d'autres en dansant ou en faisant de la gymnastique, d'autres enfin se taisent et font parler les enfants. Certaines sont toujours contentes et d'autres toujours en colère. Quand une maîtresse est en colère, tout s'arrête, on se tait. Il ne se passe plus rien, les fleuves ne coulent plus et l'homme préhistorique reste bloqué avec sa lampe prête à partir. C'est seulement quand la maîtresse s'est apaisée que tout recommence à fonctionner. Quelquefois, les maîtresses sortent de l'école et elles se déplacent grâce à des roues, des skis, une voile ou un moteur. De temps en temps, en volant, on peut aussi les rencontrer en train de faire la queue dans une boutique, de fouiller dans leur sac, d'attendre un bus ou de faire les mêmes choses que toutes les grandes personnes. La seule différence, c'est qu'elles, tôt ou tard, elles doivent toujours retourner à l'école. Mais, au bout d'un certain temps, les maîtresses deviennent les maîtresses de quelqu'un d'autre. Quand on les croise, dans la rue, au cinéma ou au marché, elles paraissent alors être devenues des grandes personnes comme les autres. Pourtant, quand on en rencontre une, on sait que celle-là, c'était notre maîtresse. Elle est juste devenue un peu plus petite. Et si on retourne à l'école quelque temps après, on découvre que la classe s'est elle aussi transformée. C'est toujours la même classe, mais elle a rapetissé. Les tables, les chaises, les étagères, les escaliers, tout s'est rétréci pour faire de la place aux nouvelles choses qui, depuis, sont arrivées. De nouveaux fleuves et exercices, de nouvelles additions, des chansons, des histoires longues ou de brefs résumés. Ils sont arrivés seuls, rangés par deux ou bien en groupe. Ils n'ont même pas demandé la permission d'entrer. Mais quand on a besoin de retrouver une poésie, un lac, ou une vieille histoire entendue en classe, il suffit de bien chercher au fond de sa mémoire et ils apparaissent soudain, tels que la maîtresse les avait placés en nous, les plus petits devant et les plus grands debout, derrière. Et voilà, c'est fini. Là, c'est un album absolument somptueux. Les illustrations sont magnifiques et très originales. Ça vaut 16 euros. C'est aux éditions Rue du Monde. Et maintenant, Ariane Mestre. Ouh là là, mon ordinateur s'est éteint. Ariane Mestre, la statue poilue.
Il fut une antique statue posée dans une rue où elle trônait nue. Les messieurs ventrus et les femmes fessues n'avaient pas perçu la belle dévêtue. Alors elle voulut changer de statue, être reconnue, admirée. Depuis dans la rue, les enfants joufflus et les moustachus toujours la saluent.
C'était donc Ariane Mestre, mais je vais vous faire écouter une autre chanson, La boîte à bonbons.
Cette vitrine est alléchante. Elle me provoque, elle me tente. Oh, je vais pousser la porte, même si le diable m'apporte, en plus des confiseries, peut-être une ou deux caries. Car la boîte à bonbons déchaîne ma passion. J'aime les berlingots en vrac et au kilo. En vrac, j'aime les cars en sac, la réglisse, les cachous et les caramels mous, les bouteilles de coca et les fraises tagada, les sucettes, les chewing-gums et les fils à la pomme, les dragibus aussi, les guimauves à l'anis, et j'adore les Smarties, pas moins que les bêtises. Quand je sors du magasin, l'air joyeux, le ventre plein, je vois la statue poilue, motus et bouche cousue, vous non plus ne dites rien. À mon petit-fils gourmand, presque autant que sa mère grand.
Voilà, c'était Ariane Mestre. Et maintenant, pour continuer sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste dans l'émission pour les enfants des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter, nous allons écouter quelques histoires, enfin normalement deux, issue de 40 histoires de femmes sans foi ni loi, édition First Cosette, Les Infréquentables. Alors, les 40 femmes qui peuplent les pages de ce livre ne sont ni polies, ni gracieuses, ni soumises, qu'elles aient accompli des exploits comme James Barry qui s'habillait en homme toute sa vie pour pouvoir exercer la chirurgie ou braver la loi comme la brigande Marion du Fawette qui volait les riches pour donner aux pauvres. Elles ont toutes pris leur destin en main, dépassant la condition que leur réservait leur statut de femme. Eh bien, justement, c'est cette femme-là que nous allons découvrir, dont nous allons découvrir la vie. Elle fait partie des maudites. Il y a des grands chapitres. Il y a les incontournables, il y a les inconnues, il y a les maudites, puis il y en a d'autres, il y a les sulfureuses. Eh bien, moi, j'ai un petit faible pour la brigante de Cornouaille qui s'appelle Marion du Fawette. À la veille de la Révolution, aidée de sa bande, Marion du Fawette, dite la Catin-Rousse, fauchait les bourses des nantis en faveur des démunis. Oyez, bonnes gens, l'histoire d'une petite mendiante, devenue la femme la plus puissante de Cornouailles. C'est une histoire d'Anne-Laure Pinault, illustration Camille Bess. Première danse de la gadoue à la gloire, c'est le premier chapitre. C'est bien connu, la misère est un terreau pour les héros. Ainsi, l'Angleterre populaire a fait d'un simple chenapan Robin des Bois le prince des voleurs. Dans la légende, il fricotait avec la belle Marianne ou Marion, guerrière intrépide. Celle-ci légua sans doute un peu de sa flamme à une autre rebelle de la même trempe, une autre Marion, dite la Catin-Rousse. Quand elle naquit au Fawette, en Cornouailles française, La Cornouaille française, c'est la Bretagne. En 1717, au XVIIIe siècle, Marie-Louise, surnommée Marion, Tromel, faisait partie de cette population qui ne possédait rien. Elle vivait de rapines et de menus travaux. Très vite, son joli minois lui permit de se faufiler, tel Arsène Lupin, dans les foules de marchands comme au sein des opulents manoirs. Elle chipait les sous, les bourses et les cœurs. Le bel Henri tomba en pâmoison devant elle. Son preux chevalier qui la suivit jusqu'à la mort fut le premier de sa bande. Car, gîtant dans les granges, des auberges ou les grands champs, la troupe s'agrandira avec les années. Un grand blond, un bossu, un bègue, un borgne, ils surent la rejoignir. Tous s'attribuaient des sobriquets de pirates, tels que le renard, la gargouille, le corbeau. Ces malfrats formaient un cirque hétéroclite qui surgissait des fourrés pour détrousser voyageurs, riches paysans et marchands. La belle faisait obéir ses hommes au doigt et à l'œil et menait grand train, car la troupe avait amassé une fortune. On parle encore du trésor de Marion. La satanée coquette offrait des coups à boire par-ci par-là, multipliait les amants, n'allait pas à l'église, frappait, crachait, menaçait. Pourquoi devint-elle une héroïne dans le cœur des gens? Parce qu'elle avait pris son pouvoir de force dans un royaume au bord de la révolte générale. Une fille de pauvre extraction avait réussi à renverser l'ordre des choses sans jamais faire couler le sang. De plus, elle avait l'habitude de faire du porte-à-porte et de reverser aux démunis ce qu'elle extorquait aux plus riches. Mieux encore, dans les campagnes du Fawet, elle était crainte et respectée car bien que voleuse, elle s'était faite justicière. Elle n'hésitait pas, par exemple, à corriger régulièrement le tailleur du coin, un voleur notoire, en lui fouettant les fesses à grands coups d'ortie. Les petites paysannes pouvaient donc sortir sans crainte au lavoir, au marché, puisque Marion veillait sur elles. Gare à qui enfreindrait les règles de cette figure rebelle dont la rousse chevelure était aux couleurs de l'identité celte. Vous allez entendre la suite après la chanson d'Ariane Mestre sur Anne Sylvestre.
Bonjour, je te vois souvent assise ici sur ce banc.
Normal, cet arrêt de puce est celui que j'aime le plus, car on aperçoit l'escouade, la boutique de Carambar, tout un tas de Turcs sympas à quatre pans de chez moi.
Désolé, les ciseaux des ailes, ça sonne bizarre aux oreilles. Je passe pour un zigoto, un zèbre, un sacré zozo. J'essaye d'enlever ses aides, mais je n'ai pas de remède.
T'inquiète, ça me débranche pas, j'aime bien praler avec toi. Moi aussi j'ai mes sourcils, une histoire de dyslexie. C'est pas un portique tous les jours, à la maison, dans la cour. Au vet, t'es dans quelle école? As-tu l'option folle et bol? Je suis un aricurie.
Moi je suis à Zulferi.
Laissons le faucheur de bus conduire seul au terminus.
Allons jouer aux jardins, dans les insalés au loin. Puis-je te faire un bisou sur le genou, sur la zou?
Tu peux faire comme tu préfères, tu es extraordinaire.
C'était bien sûr pas sûr Anne Sylvestre, mais avec Ariane Mestre, ensemble, Anne Sylvestre et Ariane Mestre. Je continue l'histoire de la maudite et infréquentable, la Bretonne, la brigande de la Cornouaille, Marion du Faouette. Seconde danse de la gloire au gibet. Recherchée de Nantes à Douarnenez, Marion échappa plusieurs fois à la marée chaussée. Rattrapée, elle fut fouettée en place publique et marquée au fer rouge du V de voleuse. Mais qu'importe, même amputée de plusieurs de ses compagnons envoyés aux galères ou pendue, comme le bel Henri en 1747, elle retournait au Faouette, continuait à picoler dans les mêmes auberges et bien sûr à braquer son pistolet sur les mines renfrognées de ces messieurs. C'est son orgueil qui l'a perdu. En 1754, arrêtée pour un simple vol à Nantes, elle révéla son identité, trop fière pour mentir. La nouvelle remonta prestement les routes et les canaux. Rapatriée à Quimper, elle fut soumise à la question. De longues heures de torture ne lui firent pourtant pas cracher le nom de ses complices. Pendue haut et court en place de Saint-Corentin, à l'âge de 38 ans, son dernier regard se posa sans doute sur l'énorme foule amassée pour assister à sa fin. Mais l'image de la brigande se balançant au bout d'une corde ne fera jamais oublier l'héroïne qu'elle fut. Depuis longtemps, on raconte aux enfants bretons l'histoire de la bonne Marion, amie du petit peuple. Parce que Marion du Faouette, c'était la revanche d'un monde asservi qui se tait. Quelques années après sa mort, quand les troupes faisaient résonner les chants de la Révolution, quelques-unes, chouannes comme républicaines, se sont réclamées de Marion. Aujourd'hui, des rues et des maisons de quartier portent son nom à Rennes, à Quimper ou encore à Carhaix. Et lorsque Trianne, le groupe, chante sa mort dans « Complainte de Marion du Faouette », la légende raconte qu'on peut apercevoir sa silhouette les matins brumeux dans les herbes hautes et son chant du Faouette. Alors là, je suis désolée parce que je n'ai pas la chanson, je n'ai pas trouvé le disque. Voilà, donc c'était l'histoire une vraie histoire. Elle a vraiment existé, contrairement à Robin des Bois, qui était une légende. Les Infréquentables, 40 histoires de femmes sans foi ni loi. C'est un vrai conseil pour un anniversaire, pour un cadeau à une enfant ou même à un enfant. On continue avec Ariane Mestre.
Le square est sans dessus dessous, joli chat noir nommé Cachou, le préféré de ses minous, tout le monde le cherche partout. Où se cache le chat Cachou, 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 tu te caches où? Je vais m'enfuir peut-être loin, car chasser ne me dit plus rien, les souris ne me donnent plus faim, je veux être végétarien. Où se cache le chat Cachou, 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 tu te caches où? Les égouts et les trous à rats, j'en ai plein le dos, croyez-moi. Plus de viande pour mes repas, je ne veux plus chasser de proie. Où se cache le chat Cachou, 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 tu te caches où? Oui, les félins sont carnivores, mais moi je ne suis plus d'accord, plus du tout content de mon sort, ce sont les légumes que j'adore. Où se cache le chat Cachou, 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 tu te caches où? Afin que revienne le minou, solution simple après tout, d'accord pour de la soupe aux choux, s'il en demande le matou.
D'accord, d'accord, a dit le chat, le chat cachou, malin, malin, comme un félin filou. Le square a retrouvé sa joie, il suffit d'accepter, ma foi, que les humains ou bien les chats prennent des chemins qu'on n'attend pas. Tant mieux, tant mieux, tant mieux pour lui, tant mieux, tant mieux, tant mieux pour nous, il est revenu, le chat cachou. Tant mieux pour lui, tant mieux pour nous, tant mieux pour lui, tant mieux pour nous, il est revenu, le chat cachou, il est revenu, le chat cachou.
Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter sur Radio Libertaire. Or, je ne passe pas les chansons en fonction des livres, je passe les chansons les unes après les autres, comme dans le CD. C'est plus simple. Et bien maintenant, nous allons parler de Regard. Alice Guy, première au générique dans Les Infréquentables, toujours le même livre, 40 histoires de femmes sans foi ni loi, paru en 2020 chez First Cosette, une coédition. Et ensuite, nous parlerons du premier manifeste pour une révolution du regard. Mais d'abord, Alice Guy, elle est dans le chapitre « Les incontournables ». Première au générique, c'est le titre du chapitre. La première cinéaste ne s'appelait pas Georges Méliès, mais Alice Guy. C'est une jeune Française qui, en 1896, utilise la première invention des frères Lumière pour raconter une fiction. Seule femme réalisatrice pendant 17 ans. Productrice, elle créera près de 600 films, des effets spéciaux et les premières surproductions. Mais l'histoire l'a longtemps oubliée. Tout commence en 1863. Lorsque Mariette Aubert rencontre Émile Guy, libraire français et éditeur installé au Chili. Un mariage arrangé mais heureux. Les jeunes gens se plaisent et aussitôt unis partent pour Santiago du Chili. Pourtant, 10 ans plus tard, Mariette a déjà eu 4 enfants. Elle tiendra à revenir en France pour donner naissance à sa fille Alice. Elle accouche le 1er juillet 1873. Alice vit ses premières années chez sa grand-mère, puis rejoint ses parents au Chili, où bientôt la tragédie prend place. La librairie fait faillite. Son frère meurt d'une crise cardiaque suivie par son père. Alice recueille sa mère et s'installe à Paris. Elle a 20 ans lorsqu'elle entre comme secrétaire au comptoir général de photographie. C'est le fondé de pouvoir du directeur, un certain Léon Gaumont, qui l'engage. Elle ne connaît rien à la photographie, mais apprend très vite. Des obturateurs au grain du papier, elle devient incollable. Il s'agit encore d'un nouvel art qui fascine. Des aristocrates aux demi-mondaines, tous viennent se faire tirer le portrait. Les scientifiques et les artistes se servent de la photographie pour leurs travaux. Alice rencontre tous ceux qui comptent en cette fin du XIXe siècle, de Charcot à Eiffel, en passant par les frères Lumière, Zola, Mirbeau ou Cléo de Mérode. Mademoiselle Alice, ainsi qu'on la surnomme, devient aussi qualifiée qu'indispensable. Et lorsque la maison doit fermer à cause d'un procès, elle pousse Léon à créer une nouvelle société, la Compagnie Gaumont. En 1895, les frères Lumière invitent Alice à découvrir leur invention, une sorte de lanterne magique améliorée. C'est ainsi qu'elle assiste à la naissance du cinématographe. Pour Gaumont, la prise de vue animée est un produit de plus à mettre à la disposition des clients. On filme des événements, des monuments, des expériences. Comme pour la photo, l'usage est documentaire. Mais Alice, fille de libraire, est une grande lectrice et elle voit tout de suite dans cette invention un outil d'éducation et de distraction. C'est la fiction qui l'attire. Elle demande le droit de réaliser des scénettes jouées par des amis. Gaumont accepte, mais que cela n'empiète pas sur son travail. Alice réalise donc ses courts-métrages à l'heure du déjeuner. Son enthousiasme est contagieux. La Gaumont lui loue un studio de fortune. C'est là qu'elle réalise son premier film, La Fée aux Choux, en 1896. Elle a 22 ans. Une fée gambade dans un champ de choux dont elle sort des bébés. Le décor est en bois, les choux sont peints à la main et la maman d'un des bébés se précipite dès qu'il renifle, surgissant sans arrêt devant la caméra. Ce premier film d'une minute séduit le public. Alice et ses techniciens vont en produire d'autres, découvrant souvent par accident des trucages artisanaux. Disparition, surimpression, magie. Preuve de son inventivité, les maisons concurrentes la copient. Le succès et les bénéfices des films d'Alice Guy décident la compagnie Gaumont à miser sérieusement sur le cinématographe. Mais l'affaire devenant sérieuse et lucrative, plus question de laisser une femme à sa tête. Il faudra tout le poids de son ami Gustave Eiffel, membre du conseil d'administration, pour qu'Alice reste responsable des productions Gaumont. Elle engage des opérateurs, des techniciens, des scénaristes, dont Louis Feuillade. Elle multiplie les tournages. Pour la seule année 1903, on compte officiellement 28 films à son actif qui deviennent de plus en plus longs. Son appétit est sans limite. C'est une gourmande, une passionnée. En 1905, elle tourne un film ambitieux, La Esmeralda, inspirée de Notre-Dame de Paris. En 1906, elle décide de réaliser La vie du Christ. Ce sera l'un des premiers films à grand spectacle. 300 figurants, 25 décors, on n'avait jamais vu ça. Le film est ovationné par le public et obtient la médaille d'argent de la ville de Milan.
Dans la voiture au point mort, maman peste vraiment fort. Les feux passent au vert, au rouge, c'est l'enfer, rien ne bouge. Les feux passent au rouge, au vert, rien ne bouge, c'est l'enfer. Ça n'avance pas d'un doigt, d'un iota, d'un petit poids. Mais des motards pleins d'astuces slalomment entre les bus. Les puanteurs du gazole qu'on respire et qui m'affole, le chat cache ou les recrache, il en a ras les moustaches. La statue poilue pauvrette, polluée des pieds à la tête, n'a plus sa blancheur d'antan, c'est pourquoi il est grand temps.
Cailloux dans l'engrenage sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Nous continuons avec une incontournable, la première cinéaste, Alice Guy. Extrait des Infréquentables, 40 histoires de femmes sans foi ni loi aux éditions First et Cosette. Et ça vaut 22 euros. Le premier film gay, G-A-Y. En 1907, Alice rencontre Herbert Blacher, un opérateur anglais avec qui elle doit travailler. La caméra les rapproche, ils se marient un an plus tard. Herbert est alors envoyé par Gaumont à Cleveland. Ainsi, 3 jours après le mariage, comme sa mère l'avait fait avant elle, Alice quitte son pays avec son mari pour traverser l'Atlantique. Persuadée qu'elle devra abandonner le cinéma, elle dépérit. Pourtant, ce sont des années passionnantes qui commencent et qui, hélas, finiront mal. Herbert est nommé près de New York à la tête d'une succursale Gaumont dotée d'un grand studio parfois vide. Quelle tentation pour Alice! Elle va le louer pour y tourner ses films. Avec son mari, elle crée sa maison de production, la Solax Company. Elle tourne toutes sortes de récits, du western au film fantastique. Tout l'attire. Elle est même co-autrice du premier film gay, Algie the Minor, en 1912, où un baiser est échangé entre deux hommes. Le succès de la Solax est retentissant. Il faut construire de plus grands plateaux. Ce sera à Fort Lee, dans le New Jersey, qui devient la mecque du cinéma, alors qu'Hollywood n'est qu'un petit studio sur un terrain vague. Alice devient une VIP. Elle apparaît dans les « Voici » et les « Galas » de l'époque. Quelle surprise après avoir été ignorée si longtemps. Ce sont des années intenses. Elle travaille sans arrêt, rien ne lui fait peur. Elle adore les scènes spectaculaires, tourne avec des éléphants, des tigres, des rats. Elle aime aussi les explosions et les lieux de tournage inédits, comme la prison de Sing Sing, où elle s'assoit sur la chaise électrique. Elle réalise des films engagée contre le travail des enfants ou la misogynie ordinaire. Mais en 1917, les mauvais placements de son mari mettent leurs affaires en péril. Et Hollywood commence à attirer l'industrie du cinéma. Les studios de Fort Lee sont désertés. Le couple se déchire. Alice signe son dernier film, Tarnished, Réputation. Je ne sais pas ce que ça veut dire « tarniche ». En 1920, elle aura tourné au total près de 600 films longs ou courts. La faillite et un divorce brutal finissent par la décourager. Elle rentre en France en 1922 avec ses enfants pour découvrir que le cinéma est devenu une affaire d'hommes. La maison Gaumont a même oublié, entre guillemets, d'inscrire la plupart de ses films à son catalogue. Les studios lui ferment leurs portes. Après plusieurs échecs, Alice abandonne le cinéma et publie des contes pour enfants. Il faudra attendre 1954 pour que son nom soit enfin reconnu. Elle est décorée de la Légion d'honneur et quelques historiens du cinéma font appel à sa mémoire. De retour aux États-Unis, elle décède en 1968. Après avoir écrit « Autobiographie d'une pionnière du cinéma 1873-1968 » qui est refusée par tous les éditeurs, le livre sera publié 8 ans après sa mort. C'est 40 ans après sa disparition que la Gaumont retrouvera 65 films d'Alice Guy qui seront publiés en coffret DVD. Il faut les voir pour découvrir la formidable inventivité de Mademoiselle Alice qui disait « Le cinématographe était mon prince charmant à moi, une reine ». Eh bien, ce qui n'est pas écrit dans le livre parce que ça n'y était pas encore à l'époque, c'est que Alice Guy a donné son nom. Enfin, ce sont les gens de Bobigny et des cinémas de la Seine-Saint-Denis qui ont donné le nom au cinéma de Bobigny. S'il s'appelle Alice Guy, il est ouvert depuis assez peu de temps. Eh bien, moi, j'en ai vu quelques-uns de ces films d'Alice Guy et effectivement, c'est une grande découverte. Eh bien, nous allons... je ne sais plus où j'en étais. Est-ce que j'ai déjà fait Radéville ? Oui, alors nous allons écouter une autre chanson d'Ariane Mestre.
Tu n'es pas encore levé, qu'il travaille déjà pour que tout soit nettoyé quand tu sortiras de chez toi. Les trottoirs seront nickel, plus de caca de teckel, de poubelles qui s'amoncellent, de fientes de tourterelles. Les embellis seront roses et tu vois la ville en rose. Ils arpentent les rues dans leur combi fluo, à la poursuite des pains, pieds gras, des crachats, des mégots. Balai devant les maisons, dehors en toute saison, puis montent dans leur camion qui clignote à l'horizon. Les embellisseurs en rose, et tu vois la ville en rose. Ils sillonnent aussi les parcs, les squares, les jardins, ramasse les détritus que les gens balancent en chemin. Salue les horticulteurs qui désherbent avec ardeur, arrange les massifs de fleurs, plante des pois de santé. Les embellisseurs en rose, et tu vois la ville en rose. Les embellisseurs excellent, avec eux la ville est belle. Les embellisseurs excellent.
Et voilà, c'était Ariane Mestre. Je vais maintenant continuer à vous parler cinéma, mais à travers un autre livre, celui qui s'appelle « Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard ». Et on voit les délicieuses illustrations de Myrion Mal, Iris Bresse et le texte, et c'est donc chez La Ville Brûle. Alors, quatrième de couverture. Et si un changer de regard était la première étape pour changer le monde? Toutes et tous, nous vivons dans un monde où règnent les images. Publicité, films, séries, jeux vidéo, porno. Ces images influencent la façon dont on pense, dont on vit, dont on aime. Malheureusement, dans la plupart de ces images, les représentations des femmes et de leur corps racontent la même histoire. Elles nous disent que ce que pensent et vivent les femmes n'est pas très intéressant. Ces images nous racontent aussi ce qui est désirable et ce qui ne l'est pas. Apprendre à décrypter ces images, prendre conscience du fait qu'elles ne sont pas neutres, chercher d'autres représentations, voilà la révolution du regard à laquelle vous invite ce petit manifeste. Iris Bray, B. R-E-Y, est l'autrice de Sex and the Series et Le regard féminin aux éditions de l'Olivier. Elle est critique de films et de séries, spécialiste des représentations de genre et des sexualités. Elle enseigne le cinéma à l'université. Bon, c'est un livre pour, pas avant 10 ans, mais à partir de 10 ans, oui. Myrion Mal fait de la bande dessinée, des dessins, de la sociologie et des tatouages. Elle parle souvent de féminisme et de cinéma, mais pas seulement. Elle est l'autrice de Commando Culotte, la ligue des super féministes, et c'est comme ça que je disparais. Elle fait des livres pour adultes aussi, hein, bien sûr. Eh bien... Le sommet parle beaucoup de films. Ce que filmer veut dire, et qui parle du règne des images, de la façon dont on filme le corps des femmes, et le message principal adressé aux femmes dans la vie comme sur les écrans, au départ, se résumait et se résume encore souvent à faire plaisir aux hommes. Ce que le cinéma racontait à Iris Bray et Myriam Mal, c'est ce qu'il fallait être. Quel genre de femme fallait-il être pour plaire aux hommes ? Il fallait faire plaisir aux hommes. Et l'aboutissement dans la vie d'une femme se résumait trouver l'amour et si possible se marier et devenir mère. Et la plupart des images racontent encore la même version de l'amour, du bonheur et de la famille. Car la plupart des images sont conçues par des hommes pour le plaisir des hommes. Quelle place reste-t-il pour le désir et le plaisir de toutes celles et de tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces représentations ? Et elle raconte ensuite comment les séries elle a réfléchi autour des séries qu'elle a vues dans les médias, les séries télévisées. Et elle a compris que la vision du monde avait été influencée par les images. Et elle a voulu transformer sa vision du monde par l'observation de ce qui nous empêche de nous sentir libres. Et elle a voulu partager cette expérience. Je résume ce livre qui est vraiment comme tous les livres de La Ville Brûle, agréable d'abord, bien illustré, avec des petites explications de texte, les mots qui sont mis en rouge et il y a un petit encart, toujours très bien mis en page, très clair. Alors, on vit entouré de femmes et d'hommes, mais on se rend compte qu'au cinéma et dans les séries, le corps des femmes n'est pas montré de la même manière que le corps des hommes. Les cinéastes utilisent différentes techniques de mise en scène selon le genre de personnage. Bon, je ne vais pas vous lire l'explication de mise en scène. Si on veut que tu trouves un personnage attirant, la caméra va faire certains mouvements pour le signifier. Voici les trois techniques les plus courantes qui t'indiquent que le personnage féminin est attirant. Ces techniques sont utilisées beaucoup plus fréquemment pour filmer les corps féminins que les corps masculins. Il y a le panorama vertical. La caméra commence par filmer les pieds du personnage et remonte très lentement le long de son corps, jusqu'à son visage que l'on ne découvre qu'à la toute fin. Ce procédé est souvent utilisé quand une femme se déshabille ou se rhabille. Ou dans les James Bond, par exemple, quand les James Bond Girls sortent de l'eau. Détailler un corps dénué de visage, c'est le montrer comme un bel objet plutôt que comme une personne. Donc après le panorama vertical, voici le ralenti. Quand une jolie fille arrive dans une pièce, elle est souvent filmée au ralenti. Les cheveux au vent. Et là, elle donne des exemples. Il y a aussi le gros plan. La caméra zoome sur certaines parties du corps. La bouche, les seins, les fesses, le sexe. Le corps féminin n'est pas montré comme un ensemble formant un être humain, mais comme des morceaux de corps sexy placés les uns à côté des autres. Et ce qui n'est pas considéré comme sexy n'est pas montré. Il est plus rare de voir une aisselle, enfin tout bras, oui, en gros plan qu'une paire de seins. Ces mouvements de caméra sont devenus au fil des années des codes visuels qui t'indiquent quels corps sont désirables. Si tu vois une fille filmée au ralenti, tu sais que tu es censé la trouver jolie. Parce que ce mouvement de caméra te raconte que le héros perçoit le monde différemment lorsqu'elle apparaît. Et dans les séries américaines que tu as regardées en 2019, 54% des personnages sont des hommes et 90% sont hétérosexuels. La plupart des images se déroulent du point de vue d'un homme hétérosexuel. Dans la majeure partie des films et des séries, ces plans sont exclusivement utilisés pour des femmes qui renvoient à un certain type de beauté très jeune, très mince. La caméra ne fait jamais de gros plans sur les femmes de plus de 50 ans ou sur les filles considérées en surpoids. Car dans les fictions que nous regardons tous et toutes, ce sont toujours les mêmes corps qui sont filmés. C'est ainsi que nous apprenons ce que sont les normes de beauté et quel type de femmes sont désirables. C'est ainsi que nous oublions que l'on peut aimer et désirer plein de corps différents. Bref, c'est ainsi que les films et les séries nous formatent. Et il y a dans les films pour l'adulte, les personnages féminins sont souvent sans voix. En 2019, on a vu parler deux fois plus de personnages masculins que de personnages féminins. Dans la trilogie des premiers Star Wars, si on ne compte pas Leia, tous les personnages féminins réunis parlent 63 secondes sur 386 minutes. Et là, elle a un encart où elle explique la parole et les filles. Il y a un centre qui a analysé la manière dont les femmes sont représentées au cinéma, le centre Gina Davis. Il y a dans les films pour enfants un personnage féminin pour trois personnages masculins. Voilà, dans les films pour enfants. Les trois quarts des personnages qui ont la parole dans ces films pour enfants sont des garçons. 80% des histoires sont racontées du point de vue d'un personnage masculin. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que dès le plus jeune âge, on s'habitue à voir au cinéma les garçons s'exprimer et les filles rester silencieuses. Voilà, ça c'était le premier chapitre qui s'appelait « Comment le corps des femmes est filmé ?» extrait du livre d'Iris Bray, illustré par Myrion Mal, « Sous nos yeux ». Oui, pas avant 10 ans, mais vraiment, c'est tout aussi intéressant pour les adultes que pour les ados. Je vous lirai un autre passage, mais en attendant, eh bien, Ariane Mestre.
Dans le métro, j'entends des mots. Souvent bizarres et rigolos, je les reçois comme des cadeaux. Venus de todo el mundo, vive les mots et les voyages en métro. Lorsque j'entends crier Hello, je m'envole pour San Francisco, Bon dia ou à tes locaux. Me conduisent tout droit à Rio, vive les mots ou Arigato. De Calcutta ou de Tokyo, ils ont des drôles d'habits ces mots. Des saris ou des kimonos, vive les mots et les voyages en métro. Portés par des boubous très beaux, en provenance de Bamako, j'ai entendu de jolis mots. J'aime leur rythme et leur écho, vive les mots. Le monde est dans tous les métros, en français j'offrirai mes mots. Manière de rendre le cadeau, vive les mots et les voyages en métro. Vive les mots et les voyages en métro.
Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la et sans publicité de la Fédération anarchiste et vous écoutez des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter. Nous continuons avec Sous nos yeux, c'est le titre du livre, Petit manifeste pour une révolution du regard, Iris Bray, illustration Myrion Mal. Qui fabrique nos images? Le site, alors ce livre est paru en 2021, ça fait déjà 5 ans. Le site Women and Hollywood a regardé le top 100 des films sortis en 2019 aux États-Unis. Les chiffres ne sont pas glorieux. 12% des cinéastes sont des femmes. 20% des scénaristes sont des femmes. 2% des chefs opérateurs sont des femmes. Alors que 51% des spectateurs sont des spectatrices. Eh oui, ça reste en travers de la gorge, non? Petit encart en rouge. Les femmes absentes des Oscars. Le travail des réalisatrices est rarement récompensé ou mis en valeur. Les Oscars, mythique cérémonie hollywoodienne, existe depuis 1929. En 91 cérémonies, Catherine Bigelow, Bigelow, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, est la seule et unique femme à avoir reçu l'Oscar de la meilleure réalisation pour le film Des mineurs. C'était en 1991. Un film de guerre sans aucun personnage féminin. Et seulement 5 femmes ont été nominées. Lina Wertmüller, Jeanne Campion, Sofia Coppola, Catherine Bigelow et Greta Gerwig. C'est la même chose au Festival de Cannes. Jeanne Campion est la seule femme à avoir reçu une Palme d'Or pour son film La leçon de piano en 1993. Et c'était ex-aequo avec un homme, Shane Cage, pour le film Adieu ma concubine, film chinois. Bon, depuis 2021, il y en a eu un petit peu, mais pas beaucoup. 88% des films américains ont été réalisés par des hommes et 80% ont été écrits par des hommes. Dans les séries américaines, ce n'est pas génial non plus. 77% des séries sont créées par des hommes et 79% des épisodes sont réalisés par des hommes. Les personnages féminins viennent donc principalement de l'imagination des hommes. Et le problème, c'est qu'ils en manquent cruellement. Alors, trop souvent, on se retrouve face à des caricatures. Des personnages féminins qui se haïssent derrière le vernis d'une fausse amitié. Ou qui n'ont pas d'autre choix que d'être vierge ou nymphomane. Le rôle de meilleure amie revenant généralement à une fille considérée comme moche. À chaque fois, elle donne des exemples. En 1973, le réalisateur français Jean Eustache a réalisé un film intitulé « La maman et la putain ». Les choses n'ont pas changé depuis. C'est comme s'il n'existait que deux identités pour les femmes de plus de 30 ans. Limite d'âge au-dessus de laquelle on ne voit jamais de femmes sans enfants et épanouies sur nos écrans. Dans la vie, comme sur les écrans, une femme qui a l'âge d'être mère mais ne l'est pas est suspecte. Il y a donc une énorme pression sur les femmes pour qu'elles deviennent mères. Pourtant, de plus en plus de femmes disent ne pas vouloir d'enfants. Lorsqu'une femme est la créatrice ou la co-créatrice d'une série, 49% des personnages principaux sont des femmes. Si les hommes sont aux commandes, ce pourcentage tombe à 33%. Quel est le point commun entre Les séries, alors là, je ne les nomme pas toutes. Il y en a plusieurs qu'elles citent et qui ont été créées par des femmes et que, selon l'autrice, ce sont des séries géniales. En fait, les séries dans lesquelles les personnages féminins sortent des stéréotypes sont le plus souvent créées par des femmes. Qu'est-ce qu'un stéréotype ? C'est une image caricaturale et souvent fausse. Par exemple, les femmes blondes seraient stupides ou bien les femmes conduisent mal alors que statistiquement, elles ont moins d'accidents que les hommes. Voilà, ça, c'est les petits encarts pour expliquer les mots qui sont en rouge. Stéréotypes, comme tout à l'heure, on avait « femmes sans enfants ». Du côté de la France, en France, 23% des films tournés entre 2006 et 2016 ont été réalisés ou co-réalisés par une femme. 23%, c'est peu. Mais c'est plus que la moyenne européenne. Pourtant, 50% des étudiants et étudiantes en cinéma sont des femmes. Que deviennent-elles après ? On ne sait pas très bien. Peut-être qu'elles manquent de confiance en elles ou bien qu'on ne leur fait pas assez confiance. Pour celles qui parviennent à devenir réalisatrices, l'écart de salaire avec les hommes sera de, tenez-vous bien, 42%. 42% de moins pour les femmes, évidemment, hein, ça ne va, c'est évident. À la télévision française, seulement 12% des fictions diffusées entre 2008 et 2018 étaient réalisées par des femmes. Il reste donc un très très long chemin avant d'arriver à l'égalité de représentation. Alors, ce livre a été écrit il y a 8 ans. Comment est-ce que c'est maintenant ? Eh bien, ça, c'est une autre recherche à faire. On va revenir avec Ariane Mestre dans « Des cailloux dans l'engrenage » consacré à elle, c'est le titre de l'émission, elle au pluriel. Nous sommes le 18 mars 2028, 2026 sur Radio Libertaire et c'est la 168e émission des « Cailloux dans l'engrenage ».
L'important n'est pas là. Qu'on s'appelle Noah, Charlie ou Mustapha, Marianne ou Binta, l'important n'est pas là. Le plus important, c'est qu'on est tous des enfants qui ont envie de s'amuser, de se défouler dans la cour de récré, de jouer au chat perché. De manger des bonbons dans le dos des parents, de chanter à tue-tête les cheveux dans le vent, de s'inventer des romans, de prendre la clé des champs. Qu'on ne croit pas en Dieu ou en Allah, en Yahvé, en Bouddha, l'important n'est pas là. Qu'on s'appelle Noah, Charlie ou Mustapha, Marianne ou Binta, l'important n'est pas là. Le plus important, c'est qu'on est tous des enfants qui se ressemblent à l'intérieur, plein de rouge, sans d'émotion et d'humeur, vert de rejoue, vert de peur, intimidé ou frimeur. Des enfants qui ont parfois des idées noires, passent des nuits blanches et retrouvent l'espoir. Ça, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, c'est un sacré droit, une liberté à soi.
Le disque du jour, c'est donc Ariane Mestre. Eh bien, je vais continuer avec ce livre que j'aime bien, Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard. pour les pré-ados, ados, adultes, enfin, moi, je considère que certains chapitres sont vraiment tout à fait possibles pour, à partir de 10 ans. Bon, c'est plutôt pour les ados, mais bon, cette émission s'adresse aux enfants, mais aux ados aussi. Iris Bray, l'autrice Myrion Mal, la dessinatrice, enfin l'illustratrice. Alors évidemment, il y a un chapitre sur Alice Guy, la pionnière. Mais là, je vous ai choisi un autre livre. Et après Alice Guy, suivant l'ordre du bouquin, il y a quelques grandes femmes qui ont changé le cinéma. Et là, j'avais envie de vous lire ce passage-là. Peu de personnes le savent, mais à sa création de 1910 à 1920, Hollywood était paritaire. Les femmes y étaient aussi nombreuses que les hommes et à tous les postes, réalisatrices, scénaristes, monteuses, cadreuses, chefs opératrices. Et alors il y a un certain nombre de stars à l'époque, Lois Weber, Frances Marion, Mabel Normand. Et pourtant, comme Alice Guy, elles sont tombées dans l'oubli et seuls les noms d'hommes sont restés. Pourquoi ? Parce que l'histoire du cinéma a été écrite dans les années 1940, c'est-à-dire au moment où il n'y avait déjà plus de femmes à Hollywood, sauf devant la caméra. Ces femmes ont fait avancer le cinéma. Dorothy Arzner, A-R-Z-N-E-R, 1897-1979. Elle était exceptionnelle. Seule cinéaste femme à Hollywood au moment de la naissance des grands studios dans les années 30. Lesbienne revendiquée, elle ne sexualisait pas gratuitement ses héroïnes, qui tiennent même des discours féministes dans ses films. C'est elle qui a inventé la perche afin de mieux suivre les mouvements de sa comédienne sur le plateau, en accrochant un micro au bout d'une canne à pêche pour prendre le son. Eh oui, moi j'en ai appris beaucoup dans ce livre. Maintenant, Frances Marion, 1888-1960. 13. Elle était une scénariste incontournable et l'autrice de plus de 300 scénarios. Elle a écrit de nombreux rôles pour la star Mary Pickford et elle a reçu 2 Oscars, la meilleure adaptation et le meilleur scénario original pour un film sur la boxe et un autre film sur la prison. Tout le monde connaît Charlie Chaplin, oui bien sûr. Eh bien, Mabel Normand, 1892-1930. Eh non, on ne la connaît pas et pourtant c'est elle qui l'a lancée. Comédienne et réalisatrice, elle a été son mentor et elle a été la première à lui donner un rôle. Lois Weber, 1879-1939. A produit le premier film en couleur. Elle a aussi réalisé plus de 300 films en 10 ans. Ces films traitaient de thèmes comme l'avortement, l'antisémitisme. Elle a inventé le split screen, ça veut dire la division de l'écran en plusieurs images, un procédé très souvent utilisé aujourd'hui. Je continuerai après une autre chanson d'Ariane Mestre.
Des enfants qui ont envie de s'amuser, de se défouler dans la cour de récré, de jouer au chat perché ou à la corde à sauter, de manger des bonbons dans le dos des parents, de chanter à tue-tête les cheveux dans le vent, de s'inventer des romans, de prendre la clé des champs. Qu'on croit, qu'on ne croit pas en Dieu ou en Allah, en Yahvé, l'important n'est pas là. Qu'on s'appelle Noah, Charlie ou Mustapha,
pas là, l'important n'est pas là. Le plus important, c'est qu'on est tous des enfants qui se ressemblent à l'intérieur, plein de rouge, sans d'émotion et d'humeur, vert de rejoue, vert de peur, intimidé ou frimeur. Des enfants qui ont parfois des idées noires, passent des nuits blanches et retrouvent l'espoir. L'important n'est pas là. La France permet ça, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. C'est un sacré droit, une liberté à soi.
Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste des cailloux dans l'engrenage. L'émission Elle numéro 168. Eh bien, je continue avec le livre sur les cinéastes, les grandes femmes qui ont changé le cinéma, dans le livre Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard de Iris Bray aux éditions La Ville Brûle. En 1929, la crise économique frappe les États-Unis, c'est le début de la Grande Dépression. Les diplômés des universités de la côte Est n'ont plus de perspective de travail. Ils apprennent qu'à Hollywood, on tourne des films et que cette industrie est très prometteuse. Certains d'entre eux décident d'y aller. Les femmes qui faisaient les films disparaissent devant ces nombreux nouveaux arrivants. Il ne leur reste plus qu'une seule place sur les plateaux, devant la caméra. À partir des années 30, les actrices deviennent des icônes hypersexualisées, des femmes glamour destinées à alimenter les fantasmes masculins. C'est le début du star system. Les femmes sont mises en avant sur les affiches et dans la publicité pour les films. Leur rôle, séduire et faire venir les spectateurs au cinéma. Elles deviennent des objets de désir et des objets tout court. Leur place est extrêmement réduite, aussi bien sur les écrans, la femme fatale, la girl next door, la blonde idiote, qu'en dehors des écrans, où elles n'ont pas le contrôle de leur vie privée et sont soumises à la communication des grands studios. Considérées comme de simples marchandises, elles sont maltraitées par les studios, jamais assez belles, jamais assez minces. Elles font alors de plus en plus appel à la chirurgie esthétique. Certaines vont jusqu'à se faire retirer des côtes pour affiner leur tour de taille ou enlever les molaires pour affiner leur visage. C'est vraiment de la torture. Greta Garbo, 1905. 1990. Surnommée la Divine, Greta Garbo est une actrice suédoise devenue l'une des plus grandes artistes de l'âge d'or hollywoodien. Lorsqu'elle arrive à Hollywood dans les années 1920, le producteur Louis Meyer dit d'elle qu'elle ressemble à une grosse vache nordique. Vous avez bien entendu, Greta Garbo traitée de grosse vache nordique. Il lui impose un régime draconien et un relooking complet. Elle se fait couper les cheveux, rectifier les dents, raser les sourcils pour les redessiner. Elle a aussi d'une certaine façon changé le cinéma puisqu'elle a été la première actrice à se battre avec des producteurs pour un meilleur salaire, devenant ainsi dans les années 1930, l'actrice la mieux payée d'Hollywood. Eh ben voilà, et ensuite il y a un dessin humoristique, je ne vous le décris pas. Voilà, j'arrête là avec Sous nos yeux qui parle du cinéma, mais ça parle encore dans beaucoup de chapitres du livre que je conseille à partir de 10-12 ans. C'est aux éditions La Ville Brûle. On va continuer avec un petit disque, un petit titre d'Ariane Mestre,
Dans le sac pourtant fermé, mon portable ils ont fauché. C'était en pleine journée.
Donc Ariane Mestre dans un album pour enfants. Et je vais continuer en parlant de cinéma. Dans ces deux livres qui se répondent, qui se complètent, je parlais « Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard chez La Ville brûle » et là, juste avant, je parlais des Infréquentables, 40 histoires de femmes sans foi ni loi. Eh bien, encore une cinéaste oubliée dans Les Incontournables. Elle s'appelle Lois Weber. Elle sera la première américaine à réaliser un long métrage de fiction. Lois Weber, la star escamotée, il y a des photos, réalisatrice star et audacieuse des débuts du cinéma, Lois Weber, à qui on doit 135 films, j'ai bien dit 135 films, a pourtant disparu comme nombre de ses consoeurs des livres d'histoire du 7e art. Et ce texte-là est écrit par Sylvie Fagnard. Peut-on le croire aujourd'hui ? Le film le plus rentable de l'année 1916 traite du droit à l'avortement 1916, vous avez bien entendu. Plus époustouflant encore, le réalisateur de ce film est une réalisatrice, Lois Weber. Elle est réalisatrice, scénariste et même productrice. Elle est alors la reine d'Hollywood, la colline sud de la Californie que viennent d'investir les pionniers et pionnières de ce 7e art balbutiant. Son salaire, le plus élevé du milieu, $5,000 de l'époque, l'équivalent de 90 000 euros aujourd'hui. par semaine, 90 000 euros par semaine, imaginez un peu. Et pourtant, la réalisatrice la plus reconnue de son époque est devenue une note en bas de page dans les encyclopédies de cinéma, constate l'actrice Suzanne Sarandon dans un documentaire consacré à ces femmes avant-gardistes par la réalisatrice et historienne du féminisme Ali Acker. Lois Weber, c'est l'histoire d'un oubli, voire d'un effacement. Tout commence à Hollywood. Non, qu'est-ce que je dis comme bêtise ? Tout commence à New York en 1907. Lois a 28 ans. Cette fille de missionnaire ambulant originaire de Pittsburgh en Pennsylvanie se produit dans les théâtres new-yorkais en duo avec son mari Phillips Smalley. Tous deux se passionnent pour la mise en boîte d'images animées sous la houlette des Français Alice Guy, dont nous avons parlé tout à l'heure, et Herbert Blacher, qui viennent de s'installer aux États-Unis. Lois et Phillips s'essaient à l'écriture et à la réalisation de films. Dans l'effervescence des débuts du cinéma états-unien, Lois Weber use les bobines et sera la première américaine à réaliser un long métrage de fiction, Le Marchand de Venise, en 1914. Nous en avons un petit peu parlé dans l'autre livre. Regard de femme. Elle devient alors la réalisatrice préférée des studios. Son nom est régulièrement mentionné aux côtés de celui de Griffith et de Cecil B. DeMille comme l'un des plus grands talents d'Hollywood, rapporte sa biographe chez les Stamps. En 1916, elle devient la première femme accueillie par l'Association des réalisateurs américains et elle restera longtemps la seule autour de cette tablée jusque-là exclusivement masculine. Cette femme de cinéma aux multiples casquettes reconnue et encensée ne couvre pas d'un mouchoir pudique les difficultés auxquelles sont confrontées ses congénères. Lois Weber est une femme qui réalise des films avec un regard de femme sur des sujets qui concernent les femmes, souligne Suzanne Sarandon. Militante du contrôle des naissances, elle plaide pour la contraception et le droit à l'avortement dans un film sorti en 1916, Where Are My Children ? Point d'interrogation. L'année précédente, elle avait dénoncé les faux-semblants des religions dans Hypocrites. Scandale à la sortie du film qui montrait pour la première fois sur grand écran une femme nue. Les ligues de vertu s'activent pour empêcher sa diffusion. Ce qui sera le cas dans son état de naissance, la Pennsylvanie. Mais les critiques sont bonnes. Le New York Times salue l'audace du film et le succès public est énorme. Les questions sociales, pas uniquement féministes, jalonnent sa filmographie. Au magazine spécialisé Photoplay, elle confie en 1913 vouloir produire des œuvres qui auront une influence positive sur l'esprit du public. Elle pressent l'impact des images sur la société. Elle évoque la peine de mort. En 1916, The People versus John Doe. Elle évoque la toxicomanie, Hop the Devil's Brew, 1916. Elle évoque encore la pauvreté et l'équité salariale dans Shoes, toujours en 1916. Star engagée dans la réalisation, elle quitte en 1927 le tournage de Topsy et Eva sur lequel elle avait été embauchée pour dénoncer l'usage dans son film de black faces, des acteurs blancs grimés en noir. L'autrice engagée n'efface pas la technicienne. À l'image de ses consoeurs exploratrices de la réalisation, Lois Weber innove, invente de nouvelles formes de narration. Pour son film Suspense, tourné en 1913, elle utilise pour la première fois la méthode du split screen, cette division de l'écran qui permet de montrer en même temps des scènes se déroulant dans des lieux différents. Je continuerai après Ariane Mestre.
Des enfants jettent leur cartable sous un imposant érable. 16h30, l'école est finie, ils vont jouer avant la nuit. Parmi eux, une jolie blonde dont les taches rousses inondent. Un visage doux et délicat, éclairé par deux yeux bleu roi. La ravissante, l'adorable, fonce dans le bac à sable. Elle commence à gratouiller sous l'œil de son père amusé. Elle racle, elle fore, elle le creuse, se roule dans la terre poudreuse, s'en met partout sous les ongles et dans ses cheveux en jongle. Alors qu'elle construit un château, elle aperçoit un asticot. Elle l'attrape immédiatement et le fait craquer sous sa dent. Cette fois pour le père, c'en est trop. Il ordonne à Princesse Crado de sortir du bac à sable et d'être enfin raisonnable. Il lui prescrit une douche sans araignée, ni ver, ni mouche. La blondinette proteste, oh, mais son père a le dernier mot. Il extirpe du bac à sable et récupère son cartable avant de lui réexpliquer comment marche la royauté. Même les reines soignent leur haleine, même les rois se nettoient les bras, même les princes se rincent. Se lave les fesses.
Je continue avec la réalisatrice Lois Weber, qui était... Alors ça y est, j'ai déjà oublié les... Quand est-ce qu'elle est née et quand est-ce qu'elle est... Elle est née en 1907, voilà. Non. Elle avait 28 ans en 1907. Elle est née... au 19e siècle. Où est-ce que j'en étais? Oui, j'ai un peu perdu le fil. Voilà, à l'aube des années 20, elle est au fait de sa gloire. Chez Universal, qui l'a fait travailler à prix d'or, elle met en lumière et fait la promotion de jeunes actrices pour qu'elles se lancent à leur tour dans la réalisation et la production. Ainsi, Cléo Madison, Lule Warrenton et Dorothy Davenport. Elle découvre aussi le talent d'un jeune homme dont la notoriété n'allait pas tarder à effacer l'audace des défricheuses, John Ford. En 1917, elle crée sa propre société, Lois Weber Productions, et conserve son statut de filmmaker le mieux rémunéré du milieu grâce à des contrats de distribution très lucratifs signés avec Universal. À l'écran, son univers se fait plus intimiste, mais elle continue à interroger la place des femmes dans la société, dans les films comme « What Do Men Want » 1921, « Two Wise Wives » 1921 et « The Blot » 1921, toujours, tous les trois. Néanmoins, alors qu'elle s'est montrée prolifique dans les années 10, ses films se font de plus en plus rares au cours de la décennie 1920. Certains historiens du cinéma y voient la conséquence de son divorce en 1922 avec Philip Smiley, toujours mis au crédit de ses films, même si les témoignages de l'époque indiquent que Lois était la tête pensante et la force créatrice du couple. Un moyen de réhabiliter l'homme caché derrière sa femme, mais qui ne résiste pas à l'examen de la suite de leur carrière respective. Si Lois Weber tourne à un rythme moins frénétique, elle n'en réalise pas moins 5 longs métrages entre 1922 et 1931. De son côté, Philippe Smylie disparaît des génériques. Selon un professeur de cinéma, Mark Lynn Anderson, c'est le passage d'une industrie libre et sans structure au système organisé des studios qui a retiré aux femmes le rôle éminent qu'elles avaient auparavant. L'industrie du film était alors moins organisée, donc les femmes étaient autorisées à occuper n'importe quelle fonction créative ou administrative, explique-t-il. Dès lors que le 7e art devient un véritable business, engageant des sommes importantes et des enjeux de pouvoir, les femmes sont peu à peu écartées des postes décisionnaires. Réalisatrices et productrices deviendront de plus en plus rares. La société de production de Loïse Weber fait faillite à l'orée des années 1930, comme la plupart des entreprises indépendantes. Elle survit en jouant le spin doctor pour les grands studios, rafistolant des scénarios mal fichus. Sa mort en 1939 d'un ulcère hémorragique ne fait l'objet que d'une brève dans le magazine Variety. Il y a eu un documentaire réalisé par Ali Acker de 2h25 en 2014 qui s'appelle Real History, The Real Story of Real Woman. Voilà, c'était l'histoire de Loïse Weber, la star escamotée dans Les Infréquentables, 40 histoires de femmes sans foi ni loi, First coédition avec Cosette. Et ça vaut 22€ et franchement, ça vaut le coup. Donc, j'aurai pas le temps pour Titou Lecoq. Les femmes aussi ont fait l'histoire. Ce sera pour une autre fois. Et encore Ariane Mestre.
Encore une histoire, encore une histoire, encore une histoire, maman. Après mes devoirs, quand tombe le soir, s'il te plaît, raconte-moi. Tu peux la chanter ou tu peux la dire, tu peux l'inventer ou tu peux la lire. Encore une histoire, encore une histoire, encore une histoire, maman. Une histoire de l'or, une histoire de l'air, une histoire bizarre, une histoire de sourd et muet, une histoire de bagarre, une histoire de respect, une histoire d'espoir, une histoire fausse, une histoire vraie. Encore une histoire, encore une histoire, encore une histoire, maman. Après mes devoirs, quand tombe le soir, s'il te plaît, raconte-moi. Tu peux la chanter ou tu peux la dire, tu peux l'inventer ou tu peux la lire. Encore une histoire, encore une histoire, encore une histoire, maman. Une histoire de France, une histoire de fou, une histoire de chance, une histoire à dormir debout. Une histoire d'absence, une histoire de poux, une histoire d'enfance, une petite histoire de rien du tout. Encore une histoire, encore une histoire, encore une histoire, maman. Après mes devoirs, quand tombe le soir, s'il te plaît, raconte-moi. Tu peux la chanter ou tu peux la dire, tu peux l'inventer ou tu peux la lire. Encore une histoire, encore une histoire, encore une histoire, maman, maman.
Voilà, l'émission est quasiment terminée. Vous avez écouté Ariane Mestre. Le disque ici en 2025, c'était le CD du jour, enfin par ordinateur, donc je suis toujours petit souci avec les ordinateurs, mais bon, c'est pas grave, c'est la marque de fabrique. Et nous avons lu que des histoires de femmes. La petite chienne et la louve, comment fonctionne une maîtresse, sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard, et Alice Guy, première au générique, ainsi que l'autre émission, enfin l'autre réalisatrice. La prochaine émission, ça sera le 1er avril et ça sera compositrice. Irina Emeliantsev, ça sera la 14e émission compositrice. Flemmardis 112, qui suivra, ça sera Julie Campiche. Un entretien suivi du disque, un entretien co-réalisé avec Femmes Libres, avec Hélène. Ensuite, le 15 avril, Les Cailloux dans l'engrenage numéro 169, ça sera encore des albums comme aujourd'hui, parce que j'ai pas fini, j'en ai encore d'autres à lire, à raconter. Raconte-moi des histoires, chantait Ariane Mestre. Et puis, il y aura le 29 avril, une émission hybride autour des éditions Bandes détournées. Ça, c'est pour un petit peu plus grand, plutôt des ados et des adultes. Mais j'essaye le plus souvent possible de faire des lectures qui sont pour plusieurs âges et que les parents, les grands-parents puissent aussi écouter avec plaisir. Il y a toujours des illustrations qui me plaisent, mais je ne peux pas les décrire, ça serait fastidieux. Eh bien, maintenant, c'est fini. Nous allons écouter Anne Sylvestre, l'indicatif. Au revoir.
Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elle lave, elle désarme ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer. Avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver. Avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.